Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est le Tout Info sur RTL avec Aude Vernuccio pour tout entendre de l'actualité de ce 6 juillet. Bonjour Aude.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un feuilleton qui a passionné les plateaux de télévision hier, alors que le nouveau gouvernement doit être dévoilé dans les prochaines heures. Ségolène Royal a-t-elle été contactée pour un poste de ministre? C'est ce qu'affirme l'ancienne ambassadrice d'Épaule. L'information a été démentie par l'Élysée qui a ensuite rétro-pédalé. Preuve à l'appui, William Galibert.
Oui, une drôle de comédie politique jouée entre l'Élysée et les plateaux télé. Ségolène Royal, invitée de BFM, affirme d'abord qu'elle a été approchée samedi en vue peut-être d'intégrer le gouvernement.
J'ai été appelée, oui, par un proche du président de la République. Donc j'ai dit, mais si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste et plus démocratique, faites-moi une proposition.
La réponse ne tarde pas, c'est complètement faux, fait savoir un conseiller du président. Mais loin de se démonter, Ségolène Royal fournit alors une copie des messages que lui a envoyé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Copie aussi d'un mot adressé dans la foulée directement à Emmanuel Macron. Rebondissement, l'Élysée est forcé d'évoquer finalement des contacts avec des membres de la majorité et surtout, je cite, le respect et la considération du président pour Ségolène Royal. Mini feuilleton improbable au cœur du remaniement et on peut parier sans risque désormais que l'ancienne ministre de l'écologie ne fera pas partie de l'équipe de Jean Castex.
À le récit de William Galibert du service politique d'RTL. Dans quelques heures donc, le remaniement, les noms d'une vingtaine de ministres doivent être dévoilés aujourd'hui. Ceux des secrétaires d'État viendront dans un second temps. Un gouvernement de rassemblement et de mission selon les mots d'Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État qui s'exprimera le 14 juillet, probablement lors d'un entretien télévisé. Lui qui avait justement mis fin à cette tradition le jour de la fête nationale.
Édouard Philippe, lui, a quitté son siège de ministre pour redevenir simple maire, mais n'allait pas dénigrer son rôle.
Réélu maire du Havre hier, l'ancien chef de Matignon a pris un malin plaisir à déambuler dans les rues de sa ville, entouré de sa nouvelle équipe municipale. Dans un premier discours, il fait d'ailleurs l'éloge de son mandat.
Être élu, mesdames et messieurs, c'est être responsable. Au fond, c'est être sérieux. Et toujours envisager l'intérêt général comme boussole. L'intérêt général, on ne peut, je crois, le saisir qu'après avoir beaucoup écouté. Mais je ne crois pas qu'il se résume constamment à l'expression de ceux qui parlent le plus fort ou au consensus. Je peux dire que le fait d'être maire, c'est avoir la chance d'exercer le plus beau des mandats que la République puisse offrir. Le plus beau.
Édouard Philippe, le maire du Havre, au micro de Julien Cagard pour RTL. La Guyane se prépare à affronter le pic de l'épidémie de coronavirus dans les prochains jours. 355 nouveaux cas ont été identifiés en 24 heures. Les trois hôpitaux guyanais ont aussi déclenché leur plan blanc. Des renforts sont envoyés de la métropole, des militaires spécialisés en réanimation, mais aussi 50 personnels de santé d'ici la semaine prochaine.
La gestion de la crise en métropole épinglée par un rapport choc des pompiers.
Un document interne qui a fuité hier matin dans la presse, rédigé par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Des forces sous-exploitées, une administration dépassée. Selon le vice-président de la Fédération, le rapport ne serait pas finalisé. Du côté du SAMU, c'est la grimace. Son président, François Braun, dénonce un texte bourré de fausses informations.
Ce document qui n'est, à ma connaissance, pas un rapport officiel, mais plus un texte syndical, il n'est d'ailleurs pas signé. S'apparente plus à un pamphlet qui témoigne d'une grande frustration des cadres de la Fédération des pompiers par rapport à cette crise sanitaire. La stratégie d'appel au 15 et à la régulation médicale qui a été mise en avant par le gouvernement était la bonne stratégie puisqu'elle a évité la saturation et les longues files d'attente devant les services d'urgence qu'on a pu voir dans d'autres pays. Les SAMU ont eu une surcharge d'appel mais n'ont pas été saturé comme on l'entend. Et puis de toute façon, comment peut-on imaginer que nos concitoyens, s'ils n'avaient pas réussi à joindre le 15, n'aient pas appelé un autre numéro d'urgence, soit le 17 ou le 18. Or, quand nous regardons les courbes d'appels téléphoniques, on voit bien que seul le 15 a subi cette augmentation d'appels.
Propos recueillis par Virginie Garin pour RTL.
Alors, fausses informations ou vérités, nous irons plus loin ce matin sur RTL à 7h45. Le colonel Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, sera l'invité, bien sûr, d'Alba Ventura.
On en vient à présent à ce drame. Samedi soir dans le Lot-et-Garonne, une gendarme de 25 ans a été percutée par une voiture. Le conducteur tentait de fuir le contrôle routier. La jeune femme a succombé à ses blessures. Au pied de la gendarmerie d'Aiguillon, dont elle faisait partie, des gerbes de fleurs ont été déposées. Dans un tweet, la gendarmerie nationale a fait part de sa vive émotion, ainsi que le maire du village, Christian Girardi.
Ma mandature commence très mal, voilà. On vient de vivre un drame épouvantable, voilà. Donc une gendarmette de la brigade d'Aiguillon qui a été sauvagement assassinée. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Bon, voilà, il a été heurté de plein fouet dans des conditions c'est atroce. Voilà. Alors nous sommes très peinés pour la famille, très peinés de voir des gens en service qui défendent, la paix sociale, qui soient sauvagement agressés. Voilà, j'espère que l'auteur de cet assassinat sera puni.
Le maire d'Aiguillon au micro de Pierre Collat pour RTL. Et le parquet d'Agen doit tenir ce matin à 11h une conférence de presse sur le déroulement des faits. L'auteur interpellé a été placé en garde à vue. C'est une histoire digne d'une série américaine policière. Deux anciens espions de la sécurité extérieure sont jugés aujourd'hui. Ils sont mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Comprenez qu'on les soupçonne d'avoir travaillé pour le régime chinois. Emmanuel Macron avait qualifié en 2017 l'affaire d'une extrême gravité.
Une idée de sortie à présent pour les vacanciers. Après 4 mois de solitude, la Joconde va retrouver son public.
Le musée du Louvre rouvre ses portes ce lundi. Port du masque obligatoire dès 11 ans. Il est conseillé de réservé à l'avance sur internet, mais dans tous les cas, c'est le moment d'y aller. Oubliez les hordes de touristes qui font la queue pendant des heures. C'est l'argument principal avancé par Jean-Luc Martinez, président directeur du musée.
Il n'y aura pas les touristes internationaux, donc c'est l'occasion de revenir et aussi de voir des choses qu'on n'a pas vues. Est-ce que vous avez vu le nouveau département des arts de l'islam? Est-ce que vous avez vu la nouvelle salle de la Joconde inaugurée l'année dernière? Est-ce que vous avez vu les diamants de la couronne? Pour ça, il faut aussi apprendre à regarder. Donc vous voyez, par exemple, on a aussi dans cette nouvelle salle de la Joconde développé des explications qui permettent de comprendre comment regarder la Joconde. Aller revoir la route qui serpente derrière elle. Aller revoir, par exemple, son vêtement, le voile qu'elle porte que vous n'avez peut-être pas deviné. C'est là aussi que la visite au musée est supérieure au fait de regarder des images. Là, vous voyez vibrer la touche, mais vous voyez aussi la matière, parce que la peinture, c'est d'abord aussi un art, une technique particulière.
Propos recueillis par Monique Younes pour RTL.
Merci.